quand les dieux rôdaient sur la terre. Il y a très longtemps en Grèce, il fallait faire très attention à ne pas mettre en colère Médée, la petite fille du soleil. Sa colère avait une force de destruction inimaginable. Elle l'a prouvé. Jason, l'imbécile, ne l'avait pas anticipé. Il la méritait bien pourtant, la rage de Médée. Médée, princesse d'un pays lointain, barbare, située à l'est, vers les levées du soleil, c'est l'actuelle Géorgie, a tout donné à Jason. Elle est tombée follement amoureuse de ce jeune grec dès qu'il lui apparut, et elle a tout quitté pour lui. Médée, petite fille du dieu soleil, a permis à Jason, avec ses drogues de magicienne, de conquérir la fameuse toison d'or. Elle a échangé avec lui les serments du mariage. Elle lui a permis de quitter ce pays lointain et de rentrer en Grèce. Pour cela, elle a pris soin de découper en petits morceaux son propre frère et de disperser les morceaux derrière eux sur leur route du retour. Comme ça, leur poursuivant, qui voulait récupérer la toison d'or et Médée, devait enterrer chaque morceau et ils étaient ainsi retardés.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Jason et elle ont eu deux enfants, deux garçons. Or voilà que rentré en Grèce, Jason se met à épouser une autre femme, une princesse grecque, la fille du roi de Corinthe, pour lui faire des enfants et monter sur le trône de la ville. Il abandonne Médée, étrangère, bafouée, trahie. Elle va réagir. Écoutons sa rage.
Dieu qui avait le soin des lois de mariage, vous aussi qui bridez des vents émus la rage, et quand libre vous plaît les lâcher sur la mer, faites hideusement flot sur flot écumer. Furie, accourez, et dans vos mains sanglantes, horriblement portez vos torches noircissantes. Les yeux étincelants, la monstrueuse crinière, sifflante sur le dos d'une horrible manière, mettez le déloyal en si grande fureur.
La punition que Médée prévoit pour son mari Jason est la plus affreuse possible, pire que la mort. Il sera un mort vivant. Jason se punira lui-même continuellement.
Que vengeant son erreur, lui-même de ses mains avec remords meurtrices, ses fils, le roi, sa femme, et que toujours ce vice picore ses poumons sans qu'il puisse mourir, mais par lieux inconnus, enragement courir, pauvre, banni, craintif, odieux, misérable, ne trouvant homme seul qui lui soit favorable, qu'il pense en moi toujours, toujours cherche à m'avoir, et toutefois jamais il ne me puisse voir.
Ce texte ne nous vient pas de la Grèce ancienne. Il ouvre une tragédie, Médée, écrite en France pendant la Renaissance, en 1556, par un poète de la Pléiade, maintenant bien oublié, Jean Bastier de la Péruse. Un ami de Ronsard, mort à 28 ans. Le théâtre, alors, n'hésitait pas à cogner avec des mots. Il dit toute la force de Médée, il dit l'humiliation qui rend Médée toute puissante et ravageuse. Quelle histoire! Que s'est-il passé alors dans le pays de Médée, puis en Grèce, pour qu'il y ait une telle explosion d'amour, puis de haine? Médée, la double. Médée, barbare, magicienne et amoureuse qui donne tout. Elle aide Jason et sa troupe de jeunes gens, plus invraisemblables les uns que les autres, les Argonautes, à conquérir la toison d'or. Elle fournit toutes les drogues nécessaires au succès du jeune et beau héros grec qu'elle épouse. Ils ont deux enfants et elle revient avec lui en Grèce. Puis Médée, en Grèce, l'exilé, qui reprend tout. Elle fera payer sa trahison à un mari bien peu méritant, en détruisant par ses drogues sa nouvelle femme et le père de cette femme, à coups d'épée. Médée tuera aussi ses propres enfants. Jason, dévasté, privé de tout, ne sera alors plus qu'un moins que rien, un nul. Il mourra tardivement, écrabouillé par un morceau pourri de sa nef Argo qui lui tombera dessus. Médée, elle, sera dévastée comme Jason, mais elle s'en sortira, comme toujours. Nous suivrons cette triste et belle histoire en deux épisodes. Il y aura aujourd'hui Médée la barbare, attendrie au pays du soleil, puis la semaine prochaine, la Médée exilée, vengeresse, pleine de colère, contre Jason, en Grèce.
Julia Sissa.
Être Médée, qu'est-ce que cela signifie, au juste? Cela signifie dire oui à la passion. Médée montre comment nous donnons libre cours aux émotions fortes, au lieu de les refouler, Comment nous nous laissons entraîner au lieu de résister? Comment nous devenons entièrement passionnés au lieu de rester raisonnables? C'est tout ou rien. Car si on ne dit pas non à la souffrance, c'est tout de suite trop. M'aider en a trop fait sur tous les plans. Trop d'amour, trop de désir, mais surtout trop de douleur. La pitié chasse la colère la pitié. Cède à la pitié, aux douleurs. Mais la douleur ne cède point. Et finalement, aux colères, là où tu me conduis, je te suivrai.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Pierre Judet de Lacombe parle de Médée, la magicienne amoureuse.
Tout d'abord, il n'y a rien d'étonnant à ce que la jeune et belle Médée soit tombée éperdument amoureuse de Jason, dès qu'elle l'a vu débarquer dans son pays. Jason, il faut le dire, était extrêmement beau. Il n'y avait pas mieux dans le genre. Un très bel adolescent avec déjà un air de guerrier intrépide. Le poète Pindare, on est revenu en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, décrit ainsi son allure alors qu'il arrive dans la ville de Iolcos en pays grec. On est au tout début des aventures de Jason. Il n'a encore aucune idée de l'existence de Médée. Il ne sait même pas encore qu'il devra prendre la mer avec sa troupe de 50 jeunes héros pour aller chercher la toison d'or. Dans cette ville grecque de Iolcos, Jason surprend tout le monde par son allure, par son éclat.
Avec le temps, Jason arriva. C'était un homme stupéfiant. Il portait deux lances. Un vêtement double l'entourait. Celui du pays de Magnésie, bien ajusté, à ses membres splendides. La peau d'une panthère l'abritait des pluies frissonnantes. Il n'avait pas quitté ses boucles, lumineuses. Non coupées, elles illuminaient tout son dos. Soudain, marchant droit, prêt à mettre à l'épreuve ses pensées qui ne tremblent pas, il vint se planter sur la grande place pleine de monde. On ne le connaissait pas, il faisait peur. Et on disait, parmi beaucoup d'autres choses,
« Ce n'est quand même pas Apollon, pas non plus Arès au char de bronze, l'époux d'Aphrodite. »
À Iolcos, Jason est un inconnu, il vient de loin, et pourtant Iolcos, c'est chez lui. C'est la ville où il est né et où un jour il aurait dû être le roi. Mais son oncle, le méchant Pélias, enfin méchant dans cette version, a volé son trône au père de Jason, un dénommé Aïsson, demi-frère de Pélias. Et depuis, ce méchant oncle règne sur la ville. Ce Pélias, l'oncle de Jason, devait être effrayant, mais il finira très mal, découpé et mis à bouillir dans un chaudron par ses filles sur les conseils de Médée. Mais on n'en est pas encore là. Par peur de lui, le père de Jason voulut protéger son fils. Il fit croire à Pélias que son enfant était mort. En fait, il envoya le bébé Jason encore dans ses langes vivre au loin, chez le centaure Chiron, qui s'occupa de l'éducation du petit. Jason, quand il arrive à Iolcos, si splendide et si surprenant, rentre en fait chez lui. Il va revendiquer le royaume pour son père et pour lui, et donc défier son oncle, le méchant Pélias. Cette famille, Jason, son père, son oncle et tous les autres, ne marche visiblement pas très bien. En fait, c'est une famille de dingues. On n'arrête pas d'y défier les dieux, de se remarier, de faire des enfants avec plusieurs épouses, les belles-mères voulant éliminer les enfants d'avant. Rien ne marche. Pas étonnant dans une telle famille. Que Jason trouve normal de se marier avec Médée, de lui faire des enfants, puis de se marier avec une autre pour faire d'autres enfants. Médée, l'épouse amoureuse et fidèle, ne le laissera pas faire. Mais en suivant Jason contre l'avis de ses proches, savait-elle où elle allait mettre les pieds? Elle aurait dû se méfier, vu les antécédents familiaux de son Jason. Ce n'est pas la peine de retenir tous les noms de cette famille. Laissons-nous seulement porter par leurs aventures. Il y a là des histoires incroyables, des figures hautes en couleur. Elles expliquent l'exil de Jason, l'arrivée d'un bélier à la toison d'or, le long voyage de ce bélier lumineux vers le pays de la petite fille du soleil, Médée, loin à l'ouest. Dans cette famille tuyau de poil, comme on disait, il y avait quatre frères, Salmoneus, Crétéus, Athamas et Sisyphe. Nous laisserons tomber Sisyphe pour cette fois, ce fourbe, ce voleur, qui passait parfois pour être le père du rusé et fourbe Ulysse. Sisyphe est bien puni dans les enfers, à rouler son rocher jusqu'au sommet d'une colline. Chaque fois, le rocher retombe et Sisyphe doit recommencer. Ça continue encore aujourd'hui. Les histoires du premier frère Salmoneus et du deuxième Crétéus vont faire naître le méchant Pélias et son neveu Jason. L'histoire sordide du troisième frère Athamas va lancer toute l'aventure de la toison d'or. Salmoneus, le frère aîné, était spécial. C'était un roi, et il voulait à tout prix qu'on le prenne pour Zeus en personne. Pour ça, il se cachait dans une grotte, tapait comme un fou sur des pots de tambour et disait que c'était Zeus, maître du tonnerre, qui faisait ce bruit. Pire encore, il avait attaché des chaudrons de bronze à son char qu'il faisait courir et disait encore que c'était le bruit du tonnerre. Zeus, évidemment, s'est fâché. Il a fini par le foudroyer et l'a jeté dans le Tartare. Zeus en a profité pour raser la ville de ce roi aussi coupable, comme on faisait à l'époque. À l'époque seulement, aujourd'hui, on bombarde les villes. Avant de disparaître, Salmoneus a eu le temps de voir grandir sa fille, qui s'appelait Tyro. Elle était belle comme un fromage, c'est-à-dire qu'elle était toute blanche et tendre. Fromage, se dit encore aujourd'hui Tyros en grec. La tendre et délicate jeune fille était tombée amoureuse d'un fleuve, ce qui se faisait en ces temps-là. Poséidon, qui avait remarqué Tyro, prit la forme de ce fleuve. Il est arrivé à ses fins. Tyro eut de lui deux enfants, dont ce Pélias dont nous avons parlé. Fils du dieu Poséidon, il ne se prendra pas pour rien. Le père n'est évidemment pas content que Tyro soit enceinte. En plus, il avait épousé une seconde épouse, Sidéro, dont le nom ne veut pas dire l'éclat et la tendresse du fromage, mais la dureté du fer. Sidéro, la marâtre, n'arrêtait pas de maltraiter Tyro, comme il arrive souvent. Salmoneus, finalement, décide de confier sa fille Tyro à son frère Crétéus, le deuxième frère de la série, qui est trop content. Crétéus finit par épouser sa nièce Tyro et lui fait deux autres enfants, dont Aïsson, qui deviendra le père de Jason. Les enfants de Tyro grandissent. Et un jour, Pélias, ce fils qu'elle a eu de Poséidon, décide de venger sa mère en tuant Sidéro, la méchante belle-mère. Ce qu'il fit. Mais il le fit dans le temple de Héra. C'est un sacrilège. Héra a donc pris en horreur ce Pélias. Elle est à l'origine de tous ses malheurs. Contre Pélias, elle soutiendra toujours son jeune neveu, Jason, et lui fera rencontrer Médée. Voilà pour Pélias et son demi-frère Aïsson, le père de Jason. Reste à expliquer l'apparition du bélier à la toison d'or. On va être vraiment dans le pire. C'est l'histoire du troisième frère, Athamas, de ses enfants et de ses deux femmes. Le troisième frère, Athamas, qu'on n'a pas encore vu opérer jusqu'ici, va mal se comporter. D'une première femme, il a deux enfants, une fille, Hélé, et un garçon, Phrixos. Puis il épouse une seconde femme que nous avons déjà croisée, la belle Ino, la sœur de Sémélé. Elle me paraissait jusque-là plutôt sympathique, cette Ino, car c'est elle qui a pris soin du tout jeune Dionysos, le fils de Zeus et de Sémélé, à sa naissance. Elle a protégé le petit de la colère de Héra. Mais là, sur ce coup, avec les enfants d'Athamas, elle n'est pas terrible, Ino. Comme tant de belles-mères de marâtres, elle veut éliminer les enfants nés du premier lit de son mari pour ne garder que ceux du second lit, le sien. Elle s'y emploie avec énergie. Mais Héra la poussera plus tard à tuer ses propres enfants, comme le fera Médée. C'est une autre histoire, passons. Phrixos, surtout l'enfant mâle, est à éliminer. Mais Ino ne doit pas se faire prendre. Elle trouve la solution qui va nous conduire à la toison d'or. Bien malgré Ino. Ino, la marâtre, persuade les femmes de sa ville de griller les grains de blé qui sont dans les réserves et qui doivent donner la moisson de l'année suivante. Quand les hommes les sèmeront, cela ne donnera rien, les grains ne germeront pas, il n'y aura pas de récolte. Les femmes agissent comme Ino le leur demande. Vient la famine. Ino, la nouvelle femme du roi, proclame qu'elle a envoyé un messager interroger l'oracle d'Apollon à Delphes, sur le remède à trouver. Le messager revient et dit que le dieu a indiqué la solution. Il faut lui sacrifier le jeune Phrixos, qui est à l'origine du désastre. Le père de Phrixos, Athamas, hésite, mais finalement cède. Phrixos va être sacrifié par son propre père. Ino est contente. Mais voilà que le messager a des remords. Il se rétracte et dit qu'il n'y a jamais eu d'oracle d'Apollon, que tout cela a été inventé par Ino. Phrixos est sauvé. On dit parfois que c'est un bélier magnifique, tout doré, qui est intervenu et se serait mis à parler. Toujours est-il que le bélier dit aux deux enfants du premier lit, Phrixos et Hélé, de monter sur son dos et qu'il va les emmener très loin, là où ils ne seront plus en danger. Le bélier s'envole avec eux, mais quand ils franchissent la mer qui sépare l'Europe de l'Asie, la jeune fille Ailée tombe dans l'eau. Ce bout de mer portera son nom, la mer de Ailée, l'Hellespont. La jeune fille est plus ou moins sauvée ou immortalisée, ça dépend. Phrixos et le bélier arrivent en Géorgie, au bord de la mer Noire. Ce pays s'appelait la Colchide. C'est le royaume d'Aïétès, fils du soleil et père de Médée. Cet Aïétès était le frère de la redoutable magicienne Circé, que nous devrons fréquenter plus tard, en compagnie d'Ulysse. Une famille solaire, savante en drogue et plus que dangereuse. Phrixos sacrifie le bélier pour le remercier d'être bien arrivé et offre sa toison dorée à Aïétès, qui cache ce trésor dans une forêt, sous la garde d'un énorme serpent. Question subsidiaire, de quelle couleur était la toison d'or ? Les avis divergent, ou bien elle était toute dorée, ou bien, dit un poète, son voyage au-dessus de la mer lui a donné la couleur pourpre, le rouge que produisent les coquillages marins. On ne sait pas. Et maintenant, tous les éléments du mythe sont enfin posés. Pélias, l'usurpateur du trône à Éolcos, Jason, le fils privé de ses droits, la toison d'or cachée en Colchide, au loin, l'histoire de Jason et de Médée et de la quête de la toison d'or par les Argonautes peut commencer.
Jason, les Argonautes, la toison d'or, pourquoi ça nous parle en fait ?
Andrea Marcolongo.
Io mi sono innamorata del mito.
Je suis tombée amoureuse du mythe de Jason, des Argonautes, de ces aventuriers qui larguent les amarres sur le premier navire au monde. Je dois dire que c'est le mythe le plus ancien de l'ancienne Grèce et c'est un mythe que tout le monde connaît. Le héros est justement celui qui tend à dépasser quelque chose, pas de façon égoïste, mais qui essaye d'aller au-delà pour donner une nouvelle réponse, non seulement à soi-même, mais au monde entier. Jason, c'est le premier qui part par la mer, qui montre le chemin et qui montre une possibilité pour tout le monde. Donc pour moi, c'est une histoire vraiment révolutionnaire.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Et vous, conquistadors, navigateurs anciens, hollandais téméraires et corsaires malouins, cherchant des Amériques, vous ne cherchâtes rien. Que l'aventure de la toison d'or. Et vous, les philosophes, vous sages d'Orient, alchimistes pointus et sorciers d'à présent, en cherchant la sagesse, vous n'avez rien cherché que de la toison d'or. Et vous, les empereurs, roitelets ou sereins, vous les vrais Charlemagne, vous les faux Charles Quint, en cherchant la puissance, vous ne cherchâtes rien que les reflets la toison d'or. Et vous, preux chevaliers, assoiffés de grandeur, vous chasseurs de saint Graal, d'oriflamme, d'honneur, cherchant la victoire, vous ne cherchâtes rien que le panache de la toison d'or. Et vous, les poètes, les rêveurs mal debout, discoureurs de l'amour pour des cieux andalous, en écoutant vos muses, n'avez rien chanté d'autre que le vieux rêve de la toison d'or. Et vous, gens d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de demain, vous balayeurs d'idoles, de dieux et de malins,
sans la vérité, vous ne recherchez rien que la clarté de la toison d'or.
Pierre Judet de Lacombe parle de Médée, l'amoureuse qui va aider Jason à conquérir la toison d'or.
Arrivé à Iolcos, Jason, comme nous l'a décrit le poète Pindare, se tient debout, bien planté, au milieu de la place centrale de la ville. Il prend la pose d'un guerrier sur ses gardes, prêt à toute éventualité, avec ses deux lances bien en main. Il impressionne. Le vieux roi Pélias accourt pour voir le spectacle. Pélias prend peur. Un oracle d'Apollon, un vrai cette fois, lui avait annoncé qu'il devait se méfier d'un homme inconnu qui arriverait en ville en n'ayant au pied qu'une seule chaussure.
Qu'y a-t-il ?
Un présage, sire, de la plus haute importance. Un jeune homme en colère. Il y a de la vengeance dans son cœur. Il est une menace pour votre trône.
Quoi ? Un autre rebelle ?
Non.
Qui est-ce alors ?
Je ne saurais dire, votre Altesse.
Dis-moi de quoi il a l'air.
Je sais seulement qu'il porte une seule sandale. Et je crois qu'il est protégé par les dieux.
Or, le magnifique jeune homme qu'il a devant lui n'en porte qu'une. C'est Jason, qui a perdu une chaussure dans la montagne d'où il venait, en traversant un torrent. Quand il voit le roi Pélias face à lui, Jason n'y va pas par quatre chemins. Il lui dit qui il est. Il dit qu'il est venu réclamer le trône pour son père et pour lui. Pélias retrouve confiance. Il pense qu'il aura vite fait d'éliminer pour toujours ce jeune prétentieux inexpérimenté. En vieux politicard rusé, Pélias dit à son jeune neveu qu'il est évidemment prêt à lui céder le pouvoir puisque Jason est dans son droit. Mais il ajoute qu'avant cela, ils doivent tous les deux obéir à un devoir familial très contraignant puisqu'ils sont réunis, enfin. Après tout, Jason et lui sont de la même famille. Pélias raconte qu'il a vu en rêve le fantôme de Phrixos. Ce Phrixos qui, enfant, s'était envolé sur le dos du bélier à la toison d'or vers le pays du soleil. Phrixos est mort et il demande à Pélias que la toison d'or soit rapatriée en Grèce. Pélias ajoute tout de suite qu'il est malheureusement trop vieux pour accomplir une telle mission sacrée. Jason, lui, est jeune, il a du temps devant lui et il a la force nécessaire pour un tel exploit. Pélias promet que Jason obtiendra le sceptre et la royauté à son retour s'il rapporte la toison. Pélias pensait évidemment envoyer Jason à la mort. Jason devra faire ce grand voyage sans l'aide magique d'un bélier qui vole. Pour rejoindre ce pays si lointain, mystérieux, il lui faudra construire et armer un grand bateau, puis traverser 1000 épreuves, franchir des mers peu hospitalières, affronter des monstres. Mais Jason accepte. Sans discuter. C'est bizarre. Il ne voit pas le piège. Eh bien, tout simplement parce que pour lui, ce n'est pas un piège. Lui, le jeune homme magnifique, solaire, avec sa toison lumineuse qui lui couvre la tête et le dos. Il veut prouver sa valeur par des actes. Il est beau et fort, mais il n'a encore rien fait dans la vie. Il veut montrer qu'il appartient à la très haute élite des héros grecs et qu'il a toutes les qualités pour être roi. Jason réagit comme un héros de conte. Il accepte une mission qui semble impossible, surhumaine, précisément pour montrer qu'il est surhumain. Mais ça ne se passera pas comme dans les contes, pas comme il le prévoyait. Jason traversera toutes les épreuves, mais pas en raison de sa force, comme il le croyait au début. Il sera vainqueur, mais parce qu'il rencontrera une princesse barbare d'origine divine, aimante et magicienne, Médée. Tout ce qu'il n'est pas, et ne peut pas une seconde imaginer être. Médée lèvera tous les obstacles pour lui. Sans elle, il n'aurait rien pu faire. Ce n'est pas une simple histoire d'amour qui, à la fin, tourne mal comme tant d'histoires d'amour en général. On assiste, avec la passion de Médée pour Jason, à un événement extraordinaire. Médée est petite fille du soleil. Elle est divine par son père. Elle a les dieux avec elle, toujours, quoi qu'elle fasse. Elle habite un pays solaire, lointain, inatteignable. Si, au point d'accepter de tout perdre, elle aime sans réserve le simple mortel qu'est Jason, jeune homme pas encore fini, sans titre de gloire, sans royaume, c'est par un acte d'ouverture infinie, un saut dans l'inconnu. Vivre avec un Grec qui n'a rien, c'est l'acceptation d'un risque immense, un défi au monde. Les dieux laissent faire, ils lui permettent de partir avec Jason et plus tard, quand ça tournera mal, ils aideront Médée à se reprendre, cruellement. Commence l'immense aventure des Argonautes, les marins de la nef Argo. Un grand bateau est construit. Son nom Argo veut dire la brillante.
Il a fallu dépenser beaucoup d'argent, n'est-ce pas, maître Argos ?
C'est exact, Votre Altesse, mais c'est le meilleur que j'ai jamais dessiné.
Quel est son nom ?
Votre Altesse, puis-je suggérer la grande flèche en hommage à sa vitesse ?
Et pourquoi pas l'Argos ? En hommage à ce maître charpentier.
Oh, quelle idée excellente.
Je ne sais quoi dire.
C'est le moins qu'on puisse faire. Comme vous le savez sans doute, vous allez bientôt naviguer dessus.
Selon plusieurs traditions, 50 rameurs y prennent place, c'est beaucoup. Même si nous avons connaissance de 100 argonautes en tous, ça variait d'une tradition à l'autre. Tous ces rameurs étaient grands et beaux et forts, et tous de très haute naissance. Échille, le poète tragique, nous apprend que la déesse Athéna avait fait placer dans la coque en construction une poutre qui parle. On ne sait pas très bien ce qu'elle a pu dire, mais il semble que cette poutre protestait dès qu'un esclave montait à bord. Le bateau, par cette voix miraculeuse et socialement peu correcte, faisait savoir que l'équipage avec ses rameurs devait être composé uniquement d'hommes libres, de très grands héros, les fameux argonautes. Et de fait, des jeunes gens nobles, fils ou petits-fils de dieux pour la plupart, accoururent de partout. Ils étaient portés par un désir de gloire, d'aventure, et aussi par l'appât du bélier doré. Parmi ces héros, chacun avait sa compétence particulière, bien ciblée. Héraclès, fils de Zeus, avec sa force inouïe. Et aussi les deux autres fils de Zeus qu'on appelle les Dioscures. Castor, qui savait dresser les chevaux, et Pollux, bon à la boxe. Il y avait deux fils de Poséidon, Euphémos, qui pouvait courir sur la mer sans se mouiller les pieds, et Périclymenos, qui pouvait se changer en tout, même en mouche, ça lui sera fatal. Il y avait Lynceus, à l'œil perçant de lynx, comme son nom l'indique. Il pouvait, paraît-il, voir jusqu'au fond de la terre. Il y avait aussi Pélée, qui sera le père d'Achille, Télamon, le père du grand Ajax, Méléagre, et tant d'autres encore. Le devin Mopsos, inspiré par Apollon, les guidait. Et puis, envoyé par Apollon, il y avait Orphée, le chanteur merveilleux, qui savait faire bouger par son chant les êtres inanimés, l'élite la plus haute.
Un rocher ! La barre à bâbord ! La barre à bâbord !
Le voyage du navire Argo vers la toison d'or fut rude. Sur l'île de Lemnos, Jason et les Argonautes rencontrent des femmes qui avaient tué tous les hommes de l'île.
Bienvenue à Lemnos.
C'était une vengeance d'Aphrodite. Les hommes de Lemnos avaient oublié de rendre hommage à la déesse. Aphrodite se vengea en répandant une odeur repoussante sur le corps de leurs épouses. Les hommes allèrent donc chercher d'autres femmes. Ils prirent des captives dans une terre du Nord et les amenèrent à Lemnos. Ne voulant pas être remplacés par ces intruses, les habitantes de Lemnos répliquèrent. Elles massacrèrent tous les êtres mâles de l'île. Ce crime a fait grand bruit. Un an après, l'arrivée des Argonautes fut à Lemnos l'occasion d'une grande fête. Aphrodite rétablit l'amour et les Argonautes purent remplacer un temps les maris mis à mort. Les adieux furent déchirants. Il y eut des naissances. Cette vengeance des femmes de Lemnos, trompées par leur mari, aurait dû mettre la puce à l'oreille de Jason, futur mari trompeur, mais ce ne fut visiblement pas le cas. Plus loin, ils arrivèrent chez un dénommé Phineus. Les dieux l'avaient rendu aveugle. Et surtout, Phineus ne pouvait quasiment rien manger. Des harpies, créatures effrayantes, des sortes d'oiseaux disgracieux au bec crochu et rapace, sortaient du néant pour dérober toute nourriture que Phineus commençait à toucher. Elle ne lui laissait quasiment rien, juste un peu, de quoi survivre, sans oublier de couvrir d'une odeur infecte la nourriture qu'elle laissait. Ce Phineus était devin. Il payait une faute.
Je suis devin. C'est un don très précieux. Je sais ce que vous cherchez, jeune prince.
Et vous pouvez nous aider ?
Cela fait 40 ans que je suis sur cette île. J'ai été exilé par les dieux. Comme ils étaient jaloux de mon don, ils m'ont crevé les yeux.
Il avait eu le malheur de révéler à des mortels entièrement, sans aucune obscurité, la volonté de Zeus. Or, Zeus accepte que des devins révèlent ce qu'il entend faire, mais seulement si c'est de manière vague, confuse, imparfaite. Comme ça, les humains auront toujours besoin des dieux. Décharné, miséreux, crasseux, Phineus prie les Argonautes de l'aider. Il leur jure que Zeus ne leur en voudra pas. Deux Argonautes, les deux fils du dieu des vents, Borès, se mettent à l'affût avec leurs épées. Ils attendent les Harpies. À peine Phineus touche-t-il à son repas qu'elles surgissent, aériennes, criardes, et arrachent la nourriture avec leur bec. Les fils de Borès leur crient dessus. Elles s'envolent loin au-dessus de la mer, rapides comme le vent. Les deux fils de Borès les rattrapent. Ils s'apprêtent à les tuer. Mais Iris, la messagère de Zeus au pied de Bourrasque, empêche le massacre. Elle jure que Phineus ne sera plus harcelé par les Harpies. Phineus peut manger, laver, rassasier, rassurer. Il prédit la suite de leur voyage aux Argonautes. Notamment, il leur enseigne comment ils pourront franchir le barrage effrayant, infranchissable, qui, juste après le Bosphore, ferme l'entrée de la mer Noire. Deux roches sombres, couvertes d'écume, ont la mauvaise habitude de bouger et de s'étreindre. Quand elles le veulent, elles ferment tout passage, écrasent les bateaux. Aucun bateau n'a jamais réussi à passer.
Pierre double, vivante, qui roule plus rapide que les bataillons fracassants des vents.
Dit le poète Pindare. Or, miraculeusement, grâce à Athéna qui bloque les rochers et lève une énorme vague pour porter la nef Argo, les Argonautes passent. Les pierres sont figées. Leur mouvement cesse à jamais. La voie est désormais libre. Lemnos, Phineus, les roches noires qui ne bougeront plus jamais. Le passage des Argonautes de ces jeunes héros pas encore faits, pas encore réellement adultes, les initie aux dangers du monde. Mais surtout, ce passage apaise le monde, l'aplanit. Grâce aux Argonautes, le monde devient moins monstrueux, comme dans les contes qui finissent bien. Mais peut-être que ce ne sera pas vraiment le cas avec les deux protagonistes de l'histoire, Jason et Médée et leurs amours. Le joli conte n'aura pas lieu. Le navire Argo arrive finalement en Colchide, la Géorgie, au pays d'Aïétès, pays solaire où se cache la toison. Le roi Aïétès, après une bataille perdue, accepte de donner à Jason la toison d'or, mais à condition qu'il passe par des épreuves qu'il lui désignera. Ces épreuves sont terribles. Pour les surmonter, Jason a besoin d'une aide, d'un secours magique. Or, il se trouve que la jeune et belle-fille du roi Médée est connue pour ses compétences fabuleuses de magicienne. Et il se trouve que Médée est tombée amoureuse à en mourir du jeune héros grec. Il faut dire que la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, y a mis du sien. Elle tenait absolument à ce que les deux jeunes gens s'aiment. Pour cela, elle a inventé un instrument de séduction qui aura un grand succès en Grèce, un gadget. Aphrodite prend un petit oiseau, le torcole, connu pour la grâce de sa parole amoureuse. Il peut tourner son cou dans tous les sens. Elle fixe l'oiseau sur une petite roue à quatre rayons et la fait tourner. Puis elle enseigne à Jason les formules qu'il doit chanter en faisant tourner sa petite roue. Et Médée, éprise, consentira à lui donner les moyens de franchir toutes les épreuves que son père imposera au jeune et beau Jason. De fait, ça marche. L'amour gagne Médée et Médée aide Jason. Médée, la magicienne, connaît des moyens magiques autrement plus puissants que ce petit tourniquet amoureux. Et Jason aura besoin de cette magie. Le roi du lieu, Aïétès, impose d'abord à Jason de labourer un champ avec une charrue d'acier tirée par des taureaux. Une épreuve normale de paysan, sauf que ces taureaux soufflent le feu, que leurs sabots sont de bronze et qu'ils sont extrêmement violents. Épreuve supplémentaire, Aïétès demande à Jason de semer dans les sillons qu'il aura creusés les dents d'un dragon légendaire. Des hommes en armes vont naître de ces dents semées. Jason devra les combattre. Aucun être humain ne devrait y arriver. Aïétès pense bien que Jason échouera. Sauf que Médée, l'amoureuse, la magicienne, est allée chercher une drogue unique qu'elle est seule à posséder, des gouttes du sang de Prométhée, le titan, qui a été cloué à sa montagne autrefois. Elle dit à Jason de s'en enduire tout le corps et d'en enduire ses armes. Il sera invincible. Mais il ne faut pas tarder, la drogue n'est efficace qu'un seul jour.
J'aime son odeur.
Elle provient d'un crocus du Caucase. Une plante aux couleurs de safran. La première fleur ayant poussé dans le sang versé par ce pauvre Prométhée.
Miracle. Grâce à la drogue de Médée, Jason est insensible au feu que les taureaux crachent par leurs naseaux. Dans sa longue épopée, Les Argonautiques, le poète Apollonios de Rhodes, du 3e siècle avant Jésus-Christ, nous raconte l'exploit.
D'abord, les taureaux s'enflammaient d'une rage monstrueuse. Ils soufflaient la lumière violente du feu. Un incendie se leva, pareil au grondement des vents beuglants que, sur le gouffre de l'eau, redoutent plus que tout les marins qui carguent les voiles. Puis, lentement, les taureaux se mirent à obéir à la lance. Ils avancèrent. Derrière eux, hérissés, la jachère se pulvérisait, fendue par la force des taureaux et par le puissant laboureur.
Aïétès n'en revient pas, il hurle de dépit. Puis Jason fait comme Aïétès lui a dit, il sème les dents du vieux dragon mythique, autrefois tué par Cadmos. Jason attend, se repose un peu. Les dents finissent par germer. Bientôt, dans les sillons, des épis sortent de terre, mais ce n'est pas du blé. Ce sont des guerriers tout armés, une foule. Ils sont menaçants.
Ils se levèrent, en épis qui couvraient tout le champ, les natifs de la terre. Sous les boucliers solides, sous les lances à la pointe galbée, sous les casques miroitants, la terre d'Arès, tueur de mortels, frissonnait.
Jason n'a pas peur, car Médée, qui avait tout prévu, lui avait dit comment réagir. Il suit son conseil. Il saisit une très grosse pierre bien ronde et la jette au milieu des guerriers qui viennent de sortir de terre. Ces guerriers étranges commencent alors à se tuer les uns les autres. Jason se rue parmi eux et supprime ceux qui restent. Certains ont encore un pied, une jambe dans le sol. Tant pis pour eux, ils y passent. Reste à voler la toison d'or. Médée est prise d'amour. Elle a décidé de vraiment trahir tous les siens. Elle partira avec les Grecs. Et avant, elle leur offrira la merveilleuse toison. Une nuit, Elle conduit Jason vers le bosquet retiré où la toison est attachée à un grand chêne. Un serpent énorme la garde. Là, il y a deux versions au moins. L'une est brutale. Le brave Jason est avalé ou se laisse avaler par le serpent avec ses armes. Une fois à l'intérieur, il peut découper le monstre puisque aucune carapace ne protège les entrailles de la bête. L'autre version est à l'avantage de Médée. De nuit, elle s'approche du monstre avec Jason. Le monstre grogne et réveille toute la contrée. Heureusement, Médée avait pris soin de tremper une branche de genévrier dans une drogue. Elle secoue cette branche devant les yeux de la bête et commence à chanter une incantation au dieu sommeil. Le serpent se calme, s'affaisse. Jason s'empare de la toison d'or. Le retour vers la Grèce est très long, tumultueux. Médée ne recule devant rien pour aider Jason. Elle perd le sens de la famille, de la sienne, on l'a dit. Pour ralentir les poursuivants, à savoir son père Aïétès et sa troupe, elle tue son jeune frère et disperse ses membres. Les poursuivants sont obligés de rendre hommage à chacun des morceaux du frère. Le voyage traverse ensuite toute l'Europe vers l'ouest. La nef Argo remonte le Danube, descend le Rhône et finit par rejoindre les lieux où une génération plus tard passera Ulysse avec son bateau quand il reviendra de Troie. Comme le bateau d'Ulysse, la nef Argo croise devant l'île des Sirènes. Mais l'histoire est très différente. Il n'y a pas de chef ligoté à son mât comme Ulysse. Il n'y a pas de bouchon de cire dans les oreilles des pauvres rameurs qui rament pour éloigner le navire, alors que le chef, tellement séduit par le chant des sirènes, hurle pour qu'on le libère de ses liens et qu'on le laisse rejoindre les belles chanteuses. S'il le faisait, ce serait sa mort assurée. Avec la nef Argo, c'est autre chose. Les Argonautes ont aussi leur chant, et il est autrement puissant que celui des sirènes. C'est le chant d'Orphée. Il sait être doux, charmeur quand il le faut, mais il sait aussi être dévastateur, bruyant et trépidant, comme ici. Les sirènes sont battues, disloquées. C'est musique contre musique.
Un bon vent modéré portait le bateau. Vite, ils furent en vue de l'île fleurie. C'est là que les sirènes, filles à la haute voix du fleuve Achelous, mettent doucement à mort quand elles chantent tous ceux qui s'amarrent chez elles. Couchant avec Achelous, la jolie Terpsichore les avait mises au monde, l'une des muses. Autrefois, elles étaient au service de Perséphone, la fille de Déméter, quand elle était vierge. Elles aimaient chanter avec elle. Aujourd'hui, elles ressemblent en partie à des oiseaux, en partie à de jeunes filles. Chaque jour, à guetter sur leur côte accueillante, elles ravirent à tant et tant de marins le miel du retour en les liquéfiant de langueur. Vers les Argonautes aussi, sans retenue, elles lançaient leur voix de lys. Déjà, ils étaient prêts à jeter du bateau les amarres sur la rive. Mais le fils d'Oïagros, Orphée, homme de Thrace, plaça entre ses mains une lyre de son pays. Et il fit entendre la cadence d'un chant rapide dans sa course. Leurs oreilles, toutes, bourdonnaient de confusion. Sous les coups du plectre, la lyre faisait violence à la voix virginale. Le zéphyr et la houle sonore depuis sa poupe emportaient le bateau. Les sirènes n'émettaient plus que des sons indistincts.
Là encore, les Argonautes, grâce à Orphée, ont gagné contre une puissance inhumaine extérieure, charmante cette fois, mais hostile. Cette puissance n'est pas seulement évitée, elle est défaite, pulvérisée par plus puissant qu'elle. Orphée s'est déchaîné, il a joué du hard rock contre la musique douce ensorceleuse des sirènes. Le bateau Argo, encore une fois, peut passer sans encombre. Rien n'a changé pour lui ni pour l'équipage. La nef Argo glisse, indifférente. Presque tous les Argonautes reviendront chez eux après ces 4 mois d'un voyage qui les a amenés dans une sorte d'au-delà. D'au-delà du verrou infranchissable que fermaient les roches noires vers un pays du soleil inconnu. Ils rentrent. La toison d'or revient à son point de départ, la Grèce. On a souvent parlé à leur propos d'un voyage d'initiation. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient appris ou découvert grand-chose. On peut seulement dire qu'ils ont fait cela. Et que ce qu'ils ont fait est fabuleux. La preuve, on en parle encore aujourd'hui. Mais c'est autre chose pour Jason et Médée. Ils ne s'en sortent pas indemnes. Ils rapportent de la Colchide lointaine non seulement la toison d'or, mais on verra que c'est pour rien. Mais l'histoire incroyable d'une Médée barbare attachée aux Grecs qu'elle a sauvée avec ses moyens nocturnes, effrayants. une barbare imprévisible, a permis à Jason d'être enfin un vrai grec, un héros. Mais pourquoi faire ? Le retour de Jason en Grèce dans sa ville de Iolcos, chez le roi Pélias, se passe très mal, comme on pouvait s'y attendre. L'oncle de Jason, le vieux Pélias, ne veut rien entendre. Il s'obstine à garder le pouvoir alors que Jason lui a rapporté la toison d'or. Pélias ne tient pas sa parole. Médée trouve une solution radicale pour éliminer le vieux gêneur. Encore une histoire de bélier, mais cette fois sans toison d'or et sans miracle, seulement un bélier normal mis à bouillir dans une marmite. Médée s'entend avec les filles de Pélias qui voient leur père vieillir. Elle prétend connaître le moyen de le rajeunir. Il suffit pour cela de le plonger dans un chaudron d'eau bouillante. Les filles sont plus que méfiantes. Pour prouver l'efficacité de sa méthode, Médée prend un bélier et le découpe, puis le plonge dans un chaudron bien chaud. Et là viennent deux histoires. Ou bien elle en sort un jeune agneau. La transformation a donc bien eu lieu. Il faut dire que, selon la légende, Médée, la magicienne, a déjà rajeuni par la même méthode et avec succès le père de Jason, le vieil Aïson. Ou bien les filles sont abusées par les mouvements du bélier dans l'eau qui bout. Elles pensent que le bélier est tué, s'est remis à vivre. Le vieux Pélias est découpé et évidemment, il n'en réchappe pas. Ses filles se mettent en colère contre Médée et Jason. Pélias est éliminé. Mais cela veut dire que Jason ne récupérera jamais le trône de Iolcos. Il doit s'enfuir avec Médée et leurs deux enfants. Toute cette conquête de la toison d'or a été finalement inutile. Jason court vers la ville de Corinthe qui l'accueille, mais il y vit avec sa famille comme un réfugié, comme un étranger sans avenir. Or, il a tout pour être un roi, la naissance, la qualification. Il a conduit les plus grands héros de son époque pour l'épreuve la plus dure, la plus glorieuse qu'on puisse imaginer, aller récupérer la toison d'or chez les barbares de Colchide. Il est donc programmé pour être roi, et non un exilé anonyme, vivement chichement. Jason ne peut pas rester un marginal. Que va-t-il faire ? Et elle ? Vous le saurez, si vous le voulez. En écoutant samedi prochain le second épisode sur Médée, après Médée, la barbare amoureuse, celle qui donne tout, Médée, l'exilée, celle qui reprend tout.
Marcel de Tienne.
Médée, pour les Grecs, vient de ce monde étrange qui est celui de la fille du soleil, et elle est marquée par l'errance. Elle est, par conséquent, celle qui n'a pas de racines, n'a pas de terre natale. Elle habite ce paysage du pays lointain où Jason et les Argonautes vont chercher la toison d'or et l'obtiennent grâce à sa complicité. Mais ce pays, elle le quitte et l'abandonne, et elle emmène avec elle le paysage extraordinaire qu'elle a habité provisoirement.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assuré par Mathieu Tourin et le mixage par Guillaume Leduc. Bonne journée sur France Inter.